Je passe maintenant la parole à Margaret Pereira. Bonjour. J'aimerais remercier cette invitation. Et je vais aussi demander à Fabienne qu'elle puisse qu'elle puisse m'avertir que j'ai 5, 10, 15 minutes. Et j'aimerais aussi ajouter je n'ai que remercier aux organisateurs et j'aimerais que la modératrice me rappelle mon temps. Et j'ai appelé cette présentation comme le silencement des corps. Et quand j'ai réuni le matériel pour pouvoir organiser cette présentation, j'ai découvert que depuis 84 au moins, je travaille avec ces questions qui lient corps, espace, notion de temps. Et j'ai demandé à Fabienne de m'avertir sur mon temps, car ce que je vais vous présenter est peut-être un résidu de tout ce que j'ai pensé au long de ces décennies. J'ai partagé, en fait, ce que l'on peut penser sur certains sujets. Corps, espace, interaction, empiricisme, idéalisme, pragmatisme, situationnisme. Donc, ce sont des questions qui ont traversé ces dernières 20 années. Je voudrais commencer par éclaircir une question très simple. Qu'est-ce que je comprends comme silencement des corps? Surtout dans une culture comme la brésilienne, où le culte au corps semble être tellement évident, ce que je comprends comme silencement des corps est un certain mode de production du corps qui me semble a été dégradé, surtout dans la pratique de l'architecture et de l'urbanisme. Nos villes et nos jeunes architectes et mon expérience encore hier d'expérimentation des travaux d'architecture nous montre que les jeunes architectes entre nous ne pensent pas ni à leur corps, ni avec leur corps, et ne reconnaissent pas non plus le corps des autres. Effectivement, dans la pratique de l'architecture, nous avons vu des projets à partir d'une opération causale où l'on commence par le rez-de-chaussée, ensuite on fait les façades, et puis ensuite, quand nous essayons d'introduire dans les pratiques de projection des éléments qui est un lien, l'ambiance, tout ceci est vu comme un exercice qui n'est pas intégré dans la formalisation synthétique du projet. Donc, ce silencement des corps, ces dernières 20, 30 années auxquelles je viens de penser, et j'ai parti de la sémiotique de la distinction pendant les années 80 entre sémiotique, sémiologie, et sans compter avec la redécouverte du situationnisme ou du pragmatisme. Dans un premier temps, j'ai commencé à penser que le problème était seulement des avant-gardes modernes. Donc, d'une façon, un problème fonctionnaliste de former des architectes et surtout penser comme, se penser comme corps et monde, corps très monde. Je ne veux même pas mon corps et monde, corps dans le monde, corps, seulement corps, monde. Et ce dont Fabiana nous a parlé, ce corps, et enfin je n'arriverai pas à... Je crois que Fabiana a bien expliqué déjà ceci. Et donc, justement à cause de cette réflexion sur le mouvement moderne et le fonctionnalisme, j'ai déjà en 87 commencé à m'apercevoir que ces avant-gardes modernes, certaines figures de ce mouvement moderne, et peut-être ce que je vais dire va vous scandaliser, il y avait des éléments, et c'est mon point de tension avec Paola, il y avait des acteurs, Le Corbusier par exemple, qui proposaient ce noyau dur du corps pour pouvoir penser leur architecture. Le Corbusier du langage, Le Corbusier parlé, dit, était infiniment moins intéressant que Le Corbusier corps ou possibilité de résistance telle qu'elle était formulée dans les années 20 dans le cercle où il bougeait. Donc, cette question de l'architecture fonctionnaliste et la critique de cette architecture ne peut s'arrêter là, parce qu'il y avait des résistances. Et j'ai commencé à me rendre compte, avec toute une génération qui a commencé à travailler non seulement avec des processus, mais dans ces processus, les points de condensation de cette réflexion sensible, et nous tous qui travaillons ce sujet, nous apercevons que, soit-il dans le processus ou en dehors, il y a des moments où cette synchronie, où cette force, enfin, arrive. Donc, à partir des années 80, mi-années 80 ou début des années 90, les efforts processuels qui essayaient de penser à ce rapport corps, corps-pensée, corps-monde, ont ouvert plusieurs chemins. Et là, j'ai commencé à ne plus être capable de séparer cette question de l'historicité des corps. Donc cette résistance de Le Corbusier, je l'ai identifiée, pour être plus simple, dans d'autres acteurs, dans d'autres mouvements. Et c'est à ce propos que je veux vous parler. Je veux reprendre la question qui a été émise par Ezan. Pourquoi avons-nous inventé d'autres paroles, d'autres mots? Parce que, à partir de cette critique du fonctionnalisme, j'ai cherché le concept de fonctionnalisme. Qu'entendons-nous par fonctionnalisme? Moi-même, aujourd'hui, en 84, ou en 87, ou en 90, ou 2009, qu'est-ce que j'ai pensé qu'était le fonctionnalisme? Pendant les années 30, qu'était le fonctionnalisme? Dans le 19e siècle, qu'ont-ils pensé à ce qu'était fonctionnalisme? C'est seulement pour vous pouvoir vous montrer comment est compliqué le problème généalogique. Et c'est là que je me suis arrêtée à Descartes, par exemple. parce que même Descartes, j'ai découvert que cette notion de fonction en Descartes était encore un rapport et pas un absolu. Et ceci a été à sujet d'une autre conférence que nous avons eue à la Casa Ruy Barbosa. Ce que je voudrais vous montrer de pourquoi nous inventons ces mots, c'est parce que nous avons un tissu, un réseau de formes, des formes de pensée et de sentir dans l'Occident qui sont tellement complexes que plusieurs générations, nous sommes en train de faire exactement ceci, nous sommes en train de mettre à jour et déplacer. Nous créons des présomptions, nous créons des réponses pour faire face et remettre à jour cette réflexion corps-monde. Il me semble que même si Guattari, Deleuze ont travaillé pendant les années 80-90, essayer de faire cette déconstruction ontologique du sujet, de cet être dans le monde, nous nous retrouvons, nous nous débattons encore dans ceci. Leur essai de mettre en question, de perforer l'idée du sujet d'un côté et le monde des choses de l'autre, nous nous débattons encore méthodologiquement, discursivement autour de cette idée. Et c'est à cause de cela, je n'ai pas encore parlé de la critique, enfin je n'ai pas fait la critique de notion d'homme type ou de universel, et que comprenons-nous par le mot universel, mais j'aimerais vous parler aujourd'hui sur cette question sur laquelle je travaille récemment, qui est la question des paroles et du langage, et le problème des paroles et de leurs emplois. Car j'ai senti dans la discussion de cette tribune et quelquefois aussi, comme nous l'avons déjà discuté auparavant avec Jean-Paul, à Salvador, ce que je sens, c'est que nous nous débattons encore autour de cette... pour essayer de fixer, nous créons de nouveaux mots au lieu de débattre, de discuter entre nous pour réorganiser, même entre nous, ces présomptions. Là, je crois que c'est un problème de faire ce saut de méthode, disons, et nous rendre compte de comment le langage peut participer à ceci. Car le langage est celui qui rend possible la construction du commun. Ou peut-être elle est un élément, le langage est un élément, qu'il soit un biais ou un artifice que nous créons dans la mesure où nos corps muets n'arrivaient pas à construire ce commun, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que nous construisons d'autres formes de médiation de la construction du monde? Si nos corps étaient seulement les résidus et si la lecture de ceci soit possible d'être partagée, pourquoi est-ce que nous faisons cet effort de parler ici? Et pourquoi est-ce que il nous faut inventer de nouveaux mots, de nouvelles paroles, par exemple ambiance? Et là, je vous explique pourquoi est-ce que je parle d'ambiance. Ou devons-nous discuter encore plus nos parcours, nos trajectoires intellectuelles, les présomptions, les points, les présomptions que nous voulons instaurer, les présomptions que nous voulons déplacer, nos difficultés par rapport à cela. Donc c'est la question que je me pose et je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement, j'ai commencé à travailler avec deux problèmes. Celui de concept d'espace. Aujourd'hui, espace est employé de façon exagérée par les architectes. J'ai eu auparavant une élève.
Et je lui ai demandé de faire une étude sur un magazine des années 20. Et justement, ça, c'est très difficile d'étudier ça. Je veux étudier l'espace public. Et je lui ai dit, écoute, ça fait 30 ans que je travaille sur l'espace et le public, et j'essaie de comprendre ces deux concepts. Et je ne sais pas si, toi maintenant que tu viens de commencer ta maîtrise, tu vas y arriver. Alors, parlons de choses qui soient plus petites, plus contingentes, plus placées dans un contexte qui soit plus, qui ait déjà été expérimenté, de sujets placés historiquement. Le terme espace public est utilisé partout maintenant dans tous les sens. Alors, depuis quand parlons-nous de public et d'espace? Et depuis quand avons-nous, à partir de quel moment avons-nous mis ensemble dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, ces deux, espace et public? Je ne vais pas faire un discours sur le public, mais je vais porter mon attention sur l'espace. En étudiant l'introduction de ce mot dans le vocabulaire architectonique, en me fondant, j'ai encore 5 minutes, donc ça va. Et parce que ça va montrer justement le problème auquel je veux arriver, en me basant sur certains travaux qui m'ont précédé, surtout un texte qui a été perdu de Françoise Schoen quand elle a créé une collection dont peut-être les Français un peu plus âgés se souviennent, une collection dans l'édition Seuil Espacement. Et le titre de cette série dans Seuil justement se rapportait au fait qu'elle étudiait un magazine avec le terme espace. François Schoen dit avec précision et souligne l'entrée en circulation du mot espace dans le vocabulaire des architectes et elle la place comme un problème lié au mouvement moderne dans les années 20. Premier point. Deuxième point, elle place l'introduction du mot espace dans le vocabulaire français de 1920. Non seulement français, elle a étudié également les traités, etc. Et le mot espace n'apparaissait pas. Il y avait des dessins, compositions, néorythmie, enfin ce que vous voudrez, mais pas le mot espace, d'après elle. Elle a situé la circulation du mot espace tel que nous essayons de le faire maintenant avec ambiance. Elle a donc placé dans la lecture des corps, des acteurs, des acteurs des années 20, la lecture de la tradition kantienne tout au long du 19e siècle. Elle a également placer la circulation du mot espace en Allemagne dans une génération qui se placerait entre 1870 et 1900. L'effort de cette génération, donc, où nous avons Wolf, Mühlhut de Brandt, Wischer et toute une série d'auteurs à ce moment-là, ces gens essaierait donc de faire la transposition, le déplacement du sens du mot architecture. Architecture à ce moment-là, essaye de ne plus être un art de dessin et on essaie de créer une nouvelle fondation pour la pratique de l'architecture vue comme étant un art de l'expérience, de l'instauration de l'expérience, de la du rappel de l'expérience, de l'incorporation de l'expérience. De toute façon, l'architecture, disons, comme une interaction violente et une réponse à un monde et dans un monde sensible, corporel, qui nous entoure. À partir de son travail, de Schoepp, pour simplifier un peu, j'ai travaillé sur ce concept d'espace et j'ai découvert qu'aucun déplacement n'est synchronique, mais peut arriver à l'être. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait une dizaine d'autres mots qui n'étaient déjà plus en français, en allemand, qui ont été criés, comme nous crions le mot ambiance, pour soutenir cette nouvelle appréhension de l'architecture post-Kant comme une pratique d'instauration, de rappel, de remémorisation et d'accentuation de cette dimension du corps en train d'expérimenter et de penser directement sur les choses. Le premier mot qui a été inventé, pour que vous sachiez, est le mot qu'on appelle empathie en français. Il y a ce mot-là. Il y a ce mot a une date de naissance, 1870-74. Nous avons un auteur, Erfurt. C'est la sensation. Et nous pensons que cela, cette théorisation du sentiment, cette théorisation de la pensée est toujours mise à jour et avec encore plus de mots, de catégories auxquelles nous faudra faire face. La dernière découverte que j'ai faite, c'est que j'ai dû revenir à Kant, a beaucoup écrit sur l'espace, il a écrit énormément sur l'espace en fait, et une découverte toute récente, et je vous pose la question, qu'a Kant enseigné? Il était professeur de quoi? Le savez-vous? Rien que pour rendre la chose un peu plus facile pour vous. Qu'a Kant enseigné pendant 30 ans? Un semestre oui, un semestre non. Des classes de géographie, physique, et je ne vais pas dire le nom en allemand correctement, géographie, physique. Et j'ai été chercher ça dans la littérature de l'époque, et il a donné des classes d'anthropologie, autrement dit, à chaque semestre. Un semestre, il était dans le doute entre le monde et les choses. Il essayait de faire un changement. Il passait son temps en voyant les hommes, les acteurs. Et il était encore prisonnier du système d'une certaine façon. Je ne sais pas si encore, mais enfin, impossible de penser à cela. Alors, je vous laisse cette question que je pose maintenant. Devons-nous inventer de nouveaux mots? Aucun problème à inventer de nouveaux mots, des néologismes. Le problème ne se trouve pas dans les mots. Et nous avons vu ça dans notre discussion sur le territoire ces dernières années. Des chercheurs dans notre domaine, comme Montanet, dans un texte récemment lu, ont déqualifié le mot espace pour qualifier le mot endroit. D'autres viennent et enlèvent la qualification de mot endroit pour qualifier positivement le mot territoire. D'autres vont enlever cette qualification de territoire pour qualifier la notion d'ambiance. C'est peut-être moi-même qui le fais d'ailleurs. fait, ils ont leur qualification à tous ces mots pour dire aller repenser l'espace. Alors, ce que je veux partager avec vous, justement, c'est qu'il me semble que l'un des grands défis auxquels nous devons faire face aujourd'hui, quand nous pensons à penser, en écrivant, en agissant, tout cela, nous agissons et nous instaurons et nous incorporons et nous sommes dans le monde. J'ai l'impression que notre défi, si nous nous fondons sur beaucoup d'instruments que nous avons reçus depuis les années 80, notre plus grand défi ne seront pas les mots, peu importe les mots, mais l'attitude intellectuelle qui a déjà été soulignée ici, de chercher à construire quelque chose en commun, de produire le commun, en n'oubliant pas que commun est un vieux mot latin qui voulait dire communis et signifiait tout simplement avec les mêmes munis, les mêmes droits. Merci.